Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs si vous nous rejoignez en direct sur BFM Business. On a beaucoup de choses ce soir à vous raconter dans l'actualité économique. D'abord, fin du suspense chez Stellantis parce que ça y est, les actionnaires ont voté mais massivement pour la rémunération de Carlos Tavares qui faisait tant polémique. Ah, cela dit, quand on regarde un petit peu dans le détail des votes, il y a quand même des choses très intéressantes à retenir. On va voir ça avec Mathieu Pechberti dans un instant. Sinon, alors, bonne nouvelle, la croissance mondiale sera un peu plus élevée que prévu cette année, nous a dit tout à l'heure le FMI. Mauvaise nouvelle, c'est pas grâce à la France et c'est pas grâce à l'Allemagne qui continue de décrocher. C'est Valentin Gric qui va leur donner également tous ces chiffres dans un instant. De tout ça, on parlera bien sûr avec nos experts qui arrivent à 18h30 et puis avec eux, on parlera aussi de cette visite aujourd'hui d'Olaf Scholz à Pékin. Il a rencontré Xi Jinping. Vous savez qu'Olaf Scholz veut rester bien sûr très proche de la Chine sur le plan économique, mais dérisquer un petit peu malgré tout le risque chinois dans les prochaines années. C'est très difficile, on en parlera bien sûr avec nos experts. Voilà le programme, dans un quart d'heure on parlera de la situation en Iran, c'est l'avocat Ardavan Amir Aslani qui sera l'invité d'Edith Chevrillon dans la grande interview. Voilà le programme non exhaustif bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h, bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc, les actionnaires de Stellantis sont tranchés assez clairement sur le papier. Autrement dit, il n'y a plus de débat. Bonsoir, Mathieu Pechberti. Les actionnaires de Stellantis ont dit oui à un peu plus de 70% à la rémunération de Carlos Tavares. Rémunération qui pourrait atteindre jusqu'à 36,5 millions d'euros sur l'année 2023. Sur le papier, c'est très net, Mathieu, mais quand on regarde le détail des votes, il y a quand même quelque chose à redire, finalement, dans cette histoire.
Hein. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu dans le détail ces votes, qui a voté quoi, et de faire un petit peu de calcul de coin de table. Parce que, vous savez, Stellantis, c'est un groupe où il y a deux grands actionnaires, hein, qui sont à la fois la famille Agnelli et la famille Peugeot, donc les familles fondatrices à la fois de Peugeot et de Fiat, qui ont créé Stellantis il y a maintenant 3 ans. Et ces deux familles-là, à elles seules, contrôlent un tiers des droits de vote. Sauf que, vous savez, c'est comme une élection finalement présidentielle, tout le monde ne va pas voter et donc en Assemblée Générale ces familles-là, finalement leur poids est encore plus important, ce qui fait que leur vote pèse quasiment la moitié des suffrages exprimés en Assemblée Générale et que donc finalement quand on enlève leur vote, on regarde que les véritables actionnaires minoritaires, on va dire les fonds d'investissement, les investisseurs, eh ben ils ont plutôt voté contre la rémunération de Carlos Tavares. Certains ont aussi voté pour, mais majoritairement, ils ont voté contre, mais ce n'est pas suffisant face au poids prépondérant des familles Agnelli et des familles Peugeot. Faut pas oublier un troisième actionnaire important, c'est BPI France, vous savez, actionnaire public contrôlé par la Caisse des dépôts et l'État français, le gouvernement, qui, elle, détient 10% des votes, mais s'abstient depuis l'année dernière face à la rémunération de Carlos Tavares, une politique qu'elle a du mal à expliquer en tout cas pour le moment, alors qu'il y a quelques années, on se souvient, il y a une dizaine d'années, il y avait une autre polémique qui était celle de la rémunération de Carlos Ghosn chez Renault, là où l'État français, à l'époque, lui, votait contre.
Bon, sur le papier, c'est massif, quand on regarde le détail, c'est à relativiser finalement.
Absolument. Dit.
Merci beaucoup Mathieu Pechberti, on parlera de tout ça bien sûr avec vous et nos experts tout à l'heure à 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, bonne nouvelle, figurez-vous, je vous disais que la croissance mondiale va être finalement un peu plus élevée que prévu cette année. Bonsoir Valentin Grille. C'est le FMI qui a livré tout à l'heure ses nouvelles prévisions. Alors comme toujours dans cette histoire, il y a des gagnants et il y a des perdants forcément, Valentin. Hein.
Oui, l'enseignement principal de cette nouvelle note, c'est que les États-Unis vont bien mieux dans cette période de lutte contre l'inflation. Ils vont aller 2 fois plus vite que les autres pays du G7. La prévision de croissance est rehaussée à 2,7% cette année. C'était 2,1% dans les précédentes estimations. À l'inverse, la zone euro régresse 0,8% contre 0,9% prévu. La France est dans la moyenne. L'Allemagne, de son côté, voit sa croissance prévue divisée par 2, notamment.
Bon, puis le fait marquant, c'est que la Chine, ça se confirme, ralentit inexorablement, Valentin.
Oui, parce que Pékin va honorer ses prévisions de croissance, faisait même un peu mieux au premier trimestre que les 5,3% constatés en 2023. Mais le FMI souligne que les prévisions ne sont pas bonnes. La Chine va bien ralentir cette année et l'année prochaine, notamment. Et là encore, ce n'est pas une surprise, du fait des difficultés du secteur du logement, notamment. Au total, l'économie mondiale se tient à peu près. Elle est très stable, 3,2% d'ici la fin 2025, sans modification ou presque par rapport à la dernière note. Pierre-Olivier Gourinchas, le chef économiste du FMI, parle d'une économie étonnamment résiliente grâce à l'excès d'épargne accumulé pendant la période de la pandémie et au soutien public qui devrait, eux, baisser avec la reprise économique des prochains mois.
Voilà pour les chiffres du FMI. Merci beaucoup, Valentin. Valentin Gris avec nous sur BFM Business. On parle bien sûr jusqu'à 20h de ces chiffres avec nos experts. À l'instant, LVMH qui publie son chiffre d'affaires du premier trimestre, il est en hausse de 3% à quasiment 20,7 milliards d'euros. L'an dernier, la hausse avait été de 17% sur le premier trimestre, mais la Chine venait juste de lever toutes les barrières restrictives liées au Covid, ce qui avait forcément dopé beaucoup plus l'activité. On parlera de ce chiffre, bien sûr, tout au long de la soirée sur BFM Business. Et puis alors, tenez, puisqu'on parlait de la Chine et de l'Allemagne, il y a eu tout à l'heure à Pékin cette rencontre qui était très attendue. Xi Jinping a accueilli Olaf Scholz. Exercice très compliqué pour le chancelier allemand qui cherche à être moins dépendant de la Chine, mais sans froisser non plus son toujours grand allié commercial. Marion Zipfel est en Asie pour BFM Business.
À Pékin, dernière étape de cette visite de 3 jours en Chine, le chancelier Olaf Scholz s'est longuement entretenu avec le président Xi Jinping ainsi qu'avec le premier ministre Li Qian et a affirmé qu'il ne voulait pas de découplage avec la Chine, son premier partenaire commercial. Durant cette visite, à Chongqing comme à Shanghai, l'accent a été mis sur la relance des relations économiques et sur l'ouverture avec la Chine, une attitude qui tranche avec celle de l'Union européenne ou des États-Unis en ce moment. Je parlais ce matin à Maximilian Boutek, le directeur de la Chambre de commerce allemande à Shanghai et qui me disait que l'Allemagne n'avait pas le choix. Les entreprises allemandes sont trop dépendantes du marché chinois et donc la seule issue pour l'Allemagne, c'était la négociation avec la Chine. Alors à l'issue de ce voyage en Chine, il n'y a eu aucune avancée majeure, mais la Chine a fait un geste en levant notamment l'interdiction d'importation de la viande de bœuf, une interdiction qui remonte à 2000 à l'époque de la vache folle. Levé aussi l'interdiction d'importation des pommes et des négociations seraient en cours pour faciliter l'importation de la viande de porc, un sujet clé pour l'Allemagne puisque Pékin est son premier client hors de l'Europe.
Marion Zipfel, donc correspondante de BFM Business en Asie, 18h05 en France, c'est la bonne nouvelle du jour. Oui, le marché du crédit IMO repart doucement. Les chiffres de Crédit Logement CSA qui sont sortis ce matin le montrent, les banques ont un petit peu desserré les taux quand même depuis le début de cette année. Marie Cœur d'Arrois.
Oui, il faudra encore attendre quelques mois avant que la reprise soit franche et visible à travers l'ensemble des indicateurs. Mais l'horizon s'est déjà nettement éclairci. Ainsi, le nombre de prêts accordés entre décembre dernier et le mois de mars a progressé de plus de 46%. Sur un an, en revanche, la tendance reste orientée à la baisse. Mais Crédit Logement CSA reste convaincu que le rebond va se confirmer. Et pour cause, la baisse des taux des crédits immobiliers devrait se poursuivre dans la perspective de ceux de la Banque Centrale Européenne. Déjà en mars, la moyenne des taux sur 20 ans est retombée à 3,8%. Même sur les durées les plus longues, les trois quarts des ménages empruntent désormais sous les 4%. Un signal encourageant, notre Crédit Logement qui regrette dans le même temps que le recalibrage des aides publiques à l'achat freine cette reprise.
Marie Cœur de Roy, à l'étranger, Vladimir Poutine s'est entretenu aujourd'hui avec le président iranien Ebrahim Raisi. D'après le Kremlin, il aurait appelé, je cite, à la retenue et lui aurait signifié qu'une escalade aurait des conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la région. Fin de citation. Et puis alors, avant les marchés, on voulait vous dire un mot de cette étude un peu angoissante qui a publié aujourd'hui une filiale de Thales qui nous confirme que le trafic sur Internet est de plus en plus colonisé par les bots. Oh, alors ils ne sont pas tous malveillants, mais ils sont quand même de plus en plus nombreux à l'être aujourd'hui. Jean-Baptiste Houette.
Piratage de comptes utilisateurs, récupération de données sensibles, blocage des sites internet par déni de service, spam. L'an dernier, la part du trafic des bots malveillants, ces programmes informatiques retors, a atteint 32%. Dans le détail, c'est en Irlande où la situation est la plus critique, avec 71% du trafic Internet utilisé par ces robots malveillants, suivi de l'Allemagne, un peu plus de 67%, et du Mexique, presque 43%. De nombreux secteurs économiques sont touchés, bien sûr le monde du jeu vidéo, mais aussi le commerce de détail, les voyages, les services financiers, les sites gouvernementaux. Des attaques, souligne l'étude, qui ont un impact négatif sur les finances des entreprises, plusieurs milliards de dollars par an. Des attaques qui dégrade aussi la qualité de service en ligne. Plus globalement, les bots, malveillants ou non, sont petit à petit en train de prendre le contrôle de nos réseaux. De plus en plus de robots, de moins en moins d'humains. Selon Imperva, les humains ne génèrent plus que la moitié du trafic Internet mondial.
Ainsi va le monde. Jean-Baptiste Huet avec nous sur BFM Business. 18h07, on va sur les marchés.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay. Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Étienne Brack, bonsoir. Euronext à la Défense pour BFM Business. Une lourde chute ce soir à la Bourse de Paris, Étienne.
Oui, très clairement. Souvenez-vous, hier, le CAC 40 avait miraculeusement clôturé dans le vert, malgré une actualité dramatique, compliquée au Moyen-Orient. Bah, là, aujourd'hui, il réagit avec du retard, mais négativement à cette actualité. Moins 1,4% pour l'indice parisien qui perd les 8000 points. Ça y est, ils sont partis. Le CAC est sur les plus bas de début mars, sur des plus bas de 6 semaines, à 7932 points, avec un mélange de mauvaises nouvelles. Surtout les ventes au détail un petit peu décevantes cette nuit en Chine, qui ont un petit peu mis les poudres, qui ont fait exploser un petit peu ces 8000 points ce matin à l'ouverture, qui ont pesé sur les valeurs cycliques. Regardez ArcelorMittal qui perd quasiment 7% ce soir à la clôture. Vous avez les constructeurs automobiles également qui sont en retrait. Renault perd 3,8%, Stellantis moins 2,6%, l'once d'or qui est à nouveau au-delà des 2400 $, et puis le pétrole également qui remonte très légèrement, plus 0,1% au-delà des 90 $. À noter l'euro-dollar qui se stabilise à 1,0628. Du côté des valeurs marquantes de cette séance, à noter Amundi qui perd un peu plus d'1% malgré le fait que le groupe se renforce aux États-Unis pour être un petit peu moins dépendant de l'Europe. Mais le marché a décidé visiblement aujourd'hui de vendre tout avant, bien sûr, les résultats d'LVMH qui seront arbitrés demain, avec un chiffre d'affaires qui est ressorti conforme aux attentes. Le CAC 40 donc perd 1,4% et donc sous les 8000 points à 7932 points.
Merci beaucoup Étienne Brack, donc à Euronext pour BFM Business. À suivre Edwige Chevrillon, la grande interview. On parle de la situation au Proche-Orient. Deux invités, Ardavan Amiraslani, avocat spécialiste de l'Iran, et Philippe Chalmin, le président de Cyclope. C'est dans un instant. Bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. L'Iran ne sortira pas indemne de son attaque. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une telle agression. Ça a été la réaction de l'armée israélienne. Et du côté iranien, le président Raisi a prévenu que la moindre action d'Israël contre les intérêts d'Iran provoquerait une réponse sévère, étendue et douloureuse pour Israël. Ardavan Amiraslani, bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci d'être avec nous.
Merci,
vous êtes avocat spécialisé dans le droit international. Vous êtes un des grands, j'ai envie de dire, un des meilleurs spécialistes de l'Iran, même si souvent votre position n'est pas celle du consensus.
Je dis vrai.
Vous dites vrai, en tous les cas, ben nous verrons. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, c'est pour ça que vous êtes venu plusieurs fois ici dans ce studio. Et vous donnez justement des cours sur la géopolitique du Proche-Orient, que ce soit à l'école de guerre économique ou encore à Sciences Po. On va parler de cette escalade, comment vous analysez cette situation, et puis on regardera les conséquences économiques tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, avec Philippe Chalmin, qui lui est un des meilleurs spécialistes des matières premières et président de Cyclope. Pour vous, comment est-ce que vous voyez les prochains jours ?
Alors déjà, tout dépend d'Israël. Cette affaire-là est d'une clarté limpide. Israël, le 1er avril, au mépris de droit international, au mépris de la Convention de Vienne, a fait décoller des F-35 de son territoire, a anéanti une résidence diplomatique de l'ambassadeur d'Iran et le consulat d'Iran à Damas. Comme vous le savez, ça s'analyse comme le territoire iranien, comme toutes les ambassades dans le monde entier, comme toutes les résidences d'ambassadeurs. L'Iran ne pouvait laisser une attaque contre son territoire impunie, et l'Iran a réagi avec cette riposte calculée par les Iraniens le 14 avril. Analysons la riposte un peu. 250 missiles de croisière balistiques et drones envoyés vers Israël. Sauf que la totalité des compagnies aériennes avaient suspendu leur vol au-dessus du territoire iranien la veille. Donc tout le monde était prévenu. Les Américains étaient prévenus, même les Israéliens étaient informés. Avant même l'envoi des missiles, les Iraniens ont déclaré qu'ils allaient envoyer les missiles maintenant. Et à la fin de l'opération, l'opération est terminée. C'est-à-dire que tout le monde savait que l'attaque allait avoir lieu depuis de nombreuses journées d'avant et ils étaient préparés pour l'empêcher.
Alors, la question, je repose ma question parce que vous avez raison de rappeler les faits, mais regardons ce qui va se passer ce soir, demain, après-demain, enfin on ne sait pas. Est-ce que vous pensez que il va avoir, enfin, on va vers une escalade, où vous pensez que malgré tout, il y a des cordes de rappel, que ce soit de la part des autres pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, cordes de rappel du côté américain. Comment est-ce que vous, vous analysez cette situation?
Les Américains ont clairement dit qu'ils ne s'associeraient pas à Israël dans le cadre d'une offensive iranienne envers l'Iran. Les pays arabes disent la même chose. Donc si Israël y va, les pays arabes du pétromonarchie arabe du Golfe Persique, si il y a escalade, c'est Netanyahou seul qui va y aller. Et c'est possible qu'il y aille.
Vous pensez pas que les Iraniens, là, je veux dire, là, vous attendez la réponse israélienne?
J'espère qu'il n'y aura pas. J'attends l'attaque israélienne. Mon riposte, c'est quand l'Iran est attaqué. Je crois que c'est fort possible qu'Israël attaque. Pas sûr qu'Israël prenne le risque d'attaquer le territoire iranien. Ils peuvent se contenter d'une frappe contre l'Hezbollah. S'ils devaient y aller, les Américains essayent de mettre tout leur poids pour empêcher un tel scénario.
Oui, mais j'ai envie de dire, excusez-moi, Ardavan Amar Aslani, le Hezbollah, le Hamas, ce ne sont pas les Iraniens. Enfin,
vous savez,
officiellement.
Les deux parties ont des proxys dans tous les sens. Ça fait des années, si vous voulez, qu'Israël est en conflit avec le Hezbollah, avec le Hamas,
oui,
avec tout le monde. C'est pas pour ça, si vous voulez, qu'ils ont éprouvé le besoin d'aller frapper l'Iran. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Ce que cherche Israël, d'une simplicité extrême, détourner le regard sur le carnage de Gaza, vous ne pouvez pas le nier, et faire en sorte que la guerre soit menée pour leur compte par les Américains.
Vous ne pouvez pas nier le carnage du côté israélien.
Tous les morts se valent. Pour l'instant, on est à 35 000 morts, 80 000 blessés, 8 000 disparus à Gaza. Personne ne conteste, même l'état-major américain a dit que les chiffres étaient proches de ça. C'est une réalité. Aujourd'hui, Israël cherche à internationaliser le conflit, ce que ne souhaite pas le gouvernement iranien.
Pourquoi vous dites ça?
Parce qu'ils ont
frappé.
Croyez-vous qu'on peut frapper impunément une ambassade, un consulat étranger, ne s'attend à rien?
Enfin, sauf si vous pensez qu'effectivement, vous avez des généraux du Hezbollah, du Hamas qui se retrouvent.
À l'ambassade américaine à Paris, vous avez 50 militaires. Oui. Dans toutes les ambassades, des attachés militaires, il y a des visites de militaires. Ce n'est pas une excuse pour aller frapper les ambassades, les consulats. En tout cas, le droit international, la Convention de l'AE, la Convention de Vienne l'interdisent. Israël ne semble pas l'avoir compris. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a un risque
d'escalade. Vous ne pouvez pas dire que l'Iran est complètement innocent dans cette situation qui se détériore.
Madame, il y a une guerre larvée de l'ombre depuis des années, on le sait. Mais qui a décidé de frapper le territoire de l'autre? C'est pas l'Iran qui a décidé. C'est Israël qui a, au mépris du droit international, frappé un consulat. Ils l'ont fait. Les Iraniens ont réagi. Il y a une réaction iranienne. Là, les Israéliens, malgré le Conseil des Américains, malgré le Conseil des Européens, des pétromonarchies arabes du Golfe,
parce qu'ils se sentent menacés.
Écoutez, ils sont menacés parce qu'ils agressent.
Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'on regarde là, au niveau, si on remonte l'histoire, vous êtes historien aussi, des relations diplomatiques. Au départ, les relations étaient très bonnes entre l'Iran et Ben Gourion au moment de la création d'Israël, et puis même jusque à l'arrivée des Mollahs. Enfin,
vous avez raison.
C'est là où il y a une détérioration.
L'Iran était quasiment une sorte d'allié d'Israël à l'époque.
Oui, complètement.
Le régime impérial, sans pour autant reconnaître des relations diplomatiques avec Israël, accueillait les Israéliens favorablement. D'ailleurs, pendant les guerres de 73, de 67, l'Iran a fourni le pétrole dont Israël avait besoin. Mais dans la pratique, il n'y a jamais eu reconnaissance. Ce qui a changé, c'est la révolution islamique, même pas dans ses premières heures, parce que sur les deux premières années de la révolution islamique, Israël a apporté son soutien à l'Iran dans la guerre contre l'Irak, puisque à l'époque, la menace contre Israël, c'était l'Irak, avec l'affaire Irangate, souvenez-vous.
Qui peut, je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration tout à l'heure du président russe Vladimir Poutine, qui dit l'escalade aurait des conséquences catastrophique, et il appelle Israël et l'Iran à la retenue. Qui peut retenir les deux parties?
L'Iran a déclaré que pour l'Iran, la question était terminée. Donc la réaction ne viendra pas de l'Iran. C'est pas l'Iran qui va déclencher quoi que ce soit. Seul Israël peut le faire. Si Israël devait le faire, eh bien la réaction iranienne sera encore plus importante. Cette fois-ci, sans prévenir.
On sera vraiment dans l'escalade. Quelle est la situation actuellement en Iran? Parce qu'on voit que il y a quand même il y a la révolte des femmes. Il y a quand même une contestation très forte vis-à-vis du régime des mollahs. Oui. Est-ce que la société bouge? On sait que vous avez encore beaucoup de familles là-bas. Vous y allez. Comment est-ce que c'est en train de craquer? Est-ce que c'est en train de s'ouvrir?
Le régime iranien est soutenu par, au grand maximum, 20 à 30% de la population iranienne. Ça, c'est certain. Donc l'immense majorité des Iraniens ne soutiennent pas la théocratie iranienne. Mmh. C'est une certitude. L'économie est en ruine. Il y a le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Donc le pouvoir est secoué à l'intérieur de son pays. C'est d'ailleurs pour cette raison même que le pouvoir après le besoin de réagir par rapport au bombardement du consulat. Mm-hmm. Parce que le gouvernement allait perdre la face au niveau de ses proxies, au niveau du peuple iranien sur le plan domestique. Il n'avait pas d'autre choix. Mais ils ne cherchent pas l'escalade parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, on va vers l'inconnu, ils n'en ont pas envie.
Et justement, est-ce qu'il y a un risque de nucléarisation du conflit?
Je ne le pense pas. Parce que là, si vous voulez, ça va pousser tous les pays arabes vers la quête du nucléaire. Parce qu'Israël, pour l'instant, est le seul pays au Moyen-Orient, avec plus de 400 ogives nucléaires, à disposer de cette arme.
Il y a l'Iran.
Non, l'Iran n'a pas d'armes nucléaires pour l'instant. Même si je pense que ce pays en dispose, globalement, si vous voulez...
Officiellement, ils n'en ont pas, selon l'AIEA.
Ils n'ont pas déclaré. L'AIEA, dans ses derniers rapports, disait que l'Iran est encore loin, au niveau de la militarisation de l'engin.
D'accord. On va voir maintenant les conséquences économiques, parce qu'on a vu, justement, les pays du Golfe, persiques, disent, mais attention, tout ça, ça peut nous conduire dans une impasse au moment où ils sont en train de se développer économiquement. Je vous propose de poser cette question à Philippe Chalmin, qui est avec nous, donc... Bonsoir Philippe, merci beaucoup. Je le disais, vous êtes un des meilleurs spécialistes pour le coup des matières premières. Vous lancez votre Cyclope nouvelle version, ça sera la combienième, 31e version, la combienième?
La 38e version que nous lançons le 14 mai.
Le 14 mai, comme ça la date est prise. Comment est-ce que vous voyez les conséquences? Est-ce qu'il y en a? Hier, il ne se passait rien en fait sur le pétrole, sur les matières premières, il ne se passait rien. Aujourd'hui ou peut-être demain dans la semaine, avec justement ce qui se passe, ce risque d'escalade?
Écoutez, ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis le 7 octobre, ce baromètre des tensions géopolitiques qu'est le prix du pétrole a été à son maximum vendredi soir. Vendredi soir, veille du week-end, où tout le monde, comme notre ami le disait, tout le monde se doutait qu'il allait y avoir une réaction iranienne. Et lundi, et encore aujourd'hui, les prix du pétrole ont légèrement reflué. Comme si, au fond, les marchés avaient soupiré en se disant « c'est pas pour cette fois-ci ». Quelque part, l'Iran a sauvé l'honneur, mais on n'est pas dans une escalade qui nous mènerait à une autre arme atomique. Finalement, il y a deux armes atomiques. Il y a l'arme atomique réelle, puis il y a une autre arme atomique pour les marchés, qui est le détroit d'Hormuz. Le détroit d'Hormuz par lequel transite un bon quart du pétrole mondial et une part non négligeable aussi du gaz naturel liquéfié. Et d'un côté, alors à la limite, on a presque eu plus de réactions sur le marché du gaz naturel dans un premier temps que sur le marché du pétrole. Et quelque part, si le prix du pétrole est resté à des niveaux quand même élevés, aux alentours de $90 le baril aujourd'hui, c'était peut-être plus en réaction à l'annonce de la croissance chinoise au premier trimestre 2024, 5,3%. Donc, tout le monde s'est dit, la Chine est peut-être en train de repartir, donc sa consommation serait un petit peu plus forte, même si l'AIE a dit à peu près le contraire la semaine dernière. Donc, on est un petit peu aujourd'hui dans le flou, et nous sommes, les marchés sont suspendus à ce qui va se passer. Moi, j'aurais, pour réagir un peu à ce que disait notre ami sur la position de l'Iran, tout ceci me rappelle un petit peu, vous savez, les duels à la fin du 19e ou au début du 20e, où on se battait en duel pour sauver son honneur, mais on arrêtait au premier sang. C'est un petit peu ça que joue... L'Iran et Israël, et il faut l'espérer, Israël. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, il y a eu du sang, un peu de sang. Est-ce qu'Israël se satisfera finalement de cette toute petite réaction iranienne largement téléguidée, prévenue, on avait presque la date du feu d'artifice, etc. Est-ce que par contre, et c'est ça l'inconnu, est-ce que Netanyahou ne cherchera pas à pousser son avantage, sachant que c'est uniquement dans une situation de guerre qu'il se maintient au pouvoir.
Ouais. Merci Philippe, vous avez tout à fait raison. Et je reprends le reste. En ce moment, il y a les grandes réunions, la réunion des FMI, la réunion de printemps. Il y a une déclaration de Janet Yellen qui dit attention, d'abord, Washington n'hésitera pas à renforcer les sanctions envers l'Iran si jamais il se passait quelque chose, mais surtout, ça aura des conséquences économiques. Propos qu'avait tenu avant-hier Bruno Le Maire en disant qu'il y aura une dégradation supplémentaire au Proche-Orient, au Moyen-Orient, entraînera une dégradation de l'économie. Donc, en fait, si je résume bien Ardavan Amir Aslani, là, il y a... en fait, les prochains jours, ils vont être clés. Si vous voyez une riposte, elle serait quand ?
Seul, dans la foulée, la semaine prochaine.
Ouais.
Mais, si vous voulez, seul Israël a la clé. Parce que les Iraniens ont déclaré qu'ils se sont satisfaits de la situation.
Ah, ils ont répondu au duel, comme vient de le dire Philippe Chalmar.
Ils ont répondu, voilà, monsieur a parfaitement raison. Si Netanyahou, si vous voulez, pardonnez-moi, perd sa tête, et qu'il ne cède pas, si vous voulez, aux appels au calme des Américains, des Européens, des pétroliers chers du Golfe Persique, et s'il y va, eh bien, on ira vers l'escalade. Puisque les Iraniens ne peuvent rester inertes face à une action israélienne nouvelle. Ça, c'est certain. Et pas que l'Iran sera menacé. Tous les pays de la région seront menacés.
Ah oui,
l'Iran, effectivement, peut intervenir au niveau du détroit d'Ormuz, mais l'Iran peut, comme il l'a déjà fait à travers Proxys, frapper les installations pétrolières saoudiennes, émiraties. Que deviendra à ce moment-là l'avenir du projet 2030 prince héritier saoudien? Que deviendra Dubaï s'il y a des missiles iraniens qui leur tombent dessus? Les conséquences vont dépasser l'enjeu de l'Iran. Et puis Bruno Le Maire, si vous voulez, au niveau des sanctions qui vont faire mal, il a déjà fait ses preuves. Il a dit la même chose sur l'économie russe après la transposition de sanctions. L'économie russe est à 3,6% de croissance.
3,2,
plus proche de zéro. Donc, d'ailleurs, il ne reste rien en Iran qui n'a déjà pas été sanctionné au bout de 45 ans. Donc, les sanctions, ce n'est pas une menace pour l'Iran. D'ailleurs, le monde a changé, Edwige Chevrillon. Il y a la Russie et la Chine qui sont au Conseil de sécurité qui vont opposer leur veto à toute initiative de ce genre. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, la Chine achète le pétrole iranien. D'autres pays de la région achètent. Ouais, L'Iran a trouvé les moyens de contrôler les sanctions au bout de 45 ans. Les sanctions ne changeront rien.
Qui a de l'influence sur les Iraniens? Vladimir Poutine, la Russie? Écoutez,
dès lors qu'il s'agit de leur honneur, personne peut dire quoi que ce soit. Les Iraniens sont contraints d'agir si Israël attaque. Et leur attaque, la prochaine fois, ne sera pas annoncée, donc ne saura pas être anticipée, elle sera autrement plus importante.
Alors, il faut faire attention, parce que quand vous dites l'honneur des Iraniens, j'en veux dire, c'est l'honneur surtout des mollahs. Voilà.
C'est une façon de s'exprimer.
Et puis vous-même, vous avez dit qu'ils ont besoin, dans le cadre de leur situation intérieure,
la situation de guerre arrange tout le monde, puisque le gouvernement iranien fait un appel au sentiment nationaliste des Iraniens qui vont se retrouver derrière le pays en danger, et Netanyahou, tant que les sanctions, les conflits internationaux, la guerre continue, il reste au pouvoir. Les Israéliens eux-mêmes ne le supportent plus. Ouais. Ce régime d'extrême droite a fait ses preuves. Les Israéliens appellent à davantage de sérénité, à davantage de tranquillité. Pas cette situation de guerre permanente qu'il a créée. Il faut que ça change, ça changera avec Netanyahou.
Ouais. Juste un petit mot, Philippe Chalmat, conclusion très très rapidement. Il y aurait un véritable choc économique si tout d'un coup s'embrase, si le scénario que nous redoutons, que redoute Ardavan Amir Aslani, se précise.
Il est évident que le moindre accident dans le détroit d'Ormuz, qui amènerait éventuellement un conflit direct entre marine iranienne ou ce qu'il en reste et marine américaine, aurait immédiatement des conséquences sur le prix du pétrole. La barre des $100 serait franchie sans aucun problème et on pourrait peut-être atteindre même le record historique de juillet 2008 à $147 le baril. Il y a quand même aussi une chose qu'il faut souligner, c'est que l'économie iranienne, elle ne tient que grâce au pétrole. L'Iran a considérablement augmenté sa production de pétrole ces dernières années. Ils ont augmenté d'un bon million de barils jour. Ils doivent être à 3,6 ou 3,7 actuellement. Ils ne peuvent pas véritablement se permettre... de couper le robinet.
Donc, le risque est trop dangereux pour eux, donc pour leur régime.
C'est un duel où il faut être capable de s'arrêter au premier sang.
Sinon, c'est perdant-perdant.
Les Iraniens, j'en suis sûr, en sont totalement conscients et leur réaction merci. L'a montré.
Merci Philippe.
Les Israéliens, c'est une autre question.
Merci Philippe Chelma. Rendez-vous le 14 mai, on l'a compris, pour Cyclope. Un mot de conclusion, Ardavan Armin Aslani.
Espérons qu'Israël saura temporiser la réaction potentielle de Netanyahou. Déjà, leur armée a déclaré qu'il va y avoir une réaction. Et si réaction il doit y avoir, que ça ne vise pas le territoire iranien. Sinon, la boîte de Pandore sera ouverte.
Merci beaucoup. Pour vous, ça fera d'autres livres de géopolitique et beaucoup de quoi renseigner. Merci Ardavan Amir Aslani d'avoir été avec nous. Merci Philippe Chelma. Tout de suite, justement, Guillaume Paul nous apporte toutes les infos.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
BFM Business, l'info éco.
Il est 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, les actionnaires ont tranché assez clairement. Les actionnaires de Stellantis, ils ont dit oui à un peu plus de 70% à la rémunération de Carlos Tavares, rémunération qui pourrait atteindre jusqu'à 36,5 millions d'euros. Sur l'année 2023, on va en reparler bien sûr dans un instant. Bonne nouvelle, le Fonds monétaire international nous dit que la croissance mondiale sera un peu plus forte que prévu cette année, 3,2% contre 3,1% auparavant. Le FMI est particulièrement optimiste pour les États-Unis qui devraient faire 2,7%. Par contre, en zone euro, il ne voit que 0,8%. En France notamment, sa prévision passe de 1% à 0,7%. Et puis un mot de l'étranger, on en parlait, Vladimir Poutine qui s'est entretenu aujourd'hui avec le président iranien Ebrahim Raisi. D'après le Kremlin, il l'aurait appelé, je cite, à la retenue et lui aurait signifié qu'une escalade aurait des conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la région. Fin de citation. 18h32, on vient avec Audrey Tcherkov et nos experts. Première partie dans un instant, jusqu'à 19h. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, nos experts sont là. La première partie, Audrey Tcherkov est aussi avec nous. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Avec nous bien sûr jusqu'à 20h. Mathieu Pechberthier est avec nous. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Bruno Coquet est avec bonsoir. Nous. Bruno, bonsoir. Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE, puis Edwige Chevrillon qui reste avec nous, bien sûr. Bonsoir Edwige, pour débriefer ce que nous ont dit Ardavan Amir Aslani et Philippe Chalmin, le président de Cyclope. Bon, il y a un sentiment général qui est que l'Iran, premier le sait, il faut que ces choses ne s'attardent pas forcément. Sur le plan
absolument, c'est-à-dire que là, on voit bien que quand même les prochaines heures, les prochains jours vont être quand même assez décisifs dans cette escalade, parce que l'armée iranienne a quand même dit que cette attaque de la part de l'Iran ne resterait pas impunie et qu'en même temps, c'est à ce moment-là, on rentre dans une logique. Et ce qui était intéressant dans ce que disait Ardavan Amir Aslani, c'est que la situation en Iran, la situation intérieure, fait que de toute manière, pour les Mollahs, ils ne peuvent pas, il faut que l'honneur soit sauf, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut, si jamais il y a une riposte israélienne, à ce moment-là, il y aura forcément une riposte encore plus forte de la part des Iraniens. Donc c'est ça qu'il faut éviter à tout prix. En même temps, lorsqu'on voit les déclarations ce matin de l'armée israélienne, on peut s'inquiéter. Donc là, les prochaines heures ou les prochains jours vont être quand même assez décisifs. Et qui a des cordes de rappel ? Déclaration importante de Vladimir Poutine, hein, oui. Du président russe, qui dit attention, il appelle tout le monde à la retenue. Donc on voit bien que les enjeux sont énormes, les enjeux sont énormes, parce que ce moment-là, tout peut basculer, parce que ça peut être l'Iran face aux autres puissances du Golfe Persique. Ça peut être l'Iran face à Israël, évidemment, l'engrenage avec les Américains, l'Europe, enfin... On rentre à ce moment-là dans une spirale où on ne sait pas très bien où ça nous conduit.
Ouais, alors sauf que les enjeux ne sont pas les mêmes pour tous, parce qu'en effet, on peut très bien se dire que personne n'a intérêt à l'escalade, autant l'Arabie Saoudite que l'Iran lui-même, puisque l'économie iranienne, et d'ailleurs Philippe Chalmin l'a très bien expliqué, repose sur l'exportation de son pétrole. Ils n'ont aucun intérêt à bloquer le détroit d'Hormuz. Le seul qui a besoin de la guerre pour se maintenir au pouvoir, c'est Benjamin Netanyahou.
Oui, de ce point de vue-là, oui. Mais bon, je ne sais pas si... Non, mais ça, c'est sûr. Hein, que lui, en tous les cas, c'est pour ça qu'il y a du reste. Ce qui se passe à Gaza, on a l'impression que rien ne peut l'arrêter. Oui. Parce que c'est sa survie politique qui est en jeu. Je ne sais pas que... Là, je n'ai pas, la réponse. Hein, parce qu'il faudrait bien que quelqu'un l'arrête.
Mais voilà, sinon, c'est ça. Mais je crois que personne ne l'a la réponse. Et les jours qui vont arriver vont être absolument décisifs parce que votre invité l'a dit, si réponse il y a, dans les jours qui viennent.
Bruno Coquet, comment est-ce qu'on voit la situation ? Est-ce effectivement l'Iran a tout intérêt à calmer le jeu, ne serait-ce que pour ne pas s'exposer à nouvelles sanctions internationales qui pourraient, pourquoi pas, encore frapper
ses importations
de pétrole ? Non, ça ne marche pas.
Il l'a dit, hein.
On l'a bien vu sur la Russie.
Les sanctions, ça sanctionne les entreprises françaises, en l'occurrence. Mais Je sais pas, je pense que quand on est là, ici, on se dit toujours, mais personne n'a intérêt à la guerre. Au bout du compte, il y a des gens quand même suffisamment, alors pas forcément irrationnels, mais dans leur rationalité, la guerre a un sens. On voit bien l'Ukraine. Hein, tout le monde disait, oui, mais quel intérêt Poutine a-t-il à la guerre ? C'est compliqué. Bon, après, on peut rationaliser, mais en tout cas, l'approche rationnelle, a priori, moi, j'y crois pas trop. Quoi. C'est-à-dire que le point, c'est d'arriver à comprendre jusqu'où peut aller l'irrationalité, jusqu'où un régime comme ça...
On le voit avec Netanyahou, comme le soulevait Audrey.
Non, mais il peut venir de Netanyahou, mais je sais pas, il peut aussi venir du régime iranien, cette irrationalité. On veut croire que c'est la Perse d'avant, qu'ils ont survécu, que c'est rationnel. Moi, je serais plus prudent que ça.
Ah non, mais de toute façon, on est bien d'accord, Bruno, pour dire qu'il n'y a aucune rationalité de la part des extrêmes, et surtout pas des extrêmes en Iran.
Oui, donc du coup, je pense qu'il ne faut pas raisonner par rapport à ça, il faut être un petit peu prêt à tout. Ce que j'observe, moi, c'est que si on regarde les milieux économique, personne n'est vraiment inquiet. Il y a certes les marchés baissent
un peu. Les marchés restent
une quinzaine de jours, donc faut remettre ça.
On a un peu l'impression qu'ils ont anticipé d'ores et déjà tout ce qui allait se passer.
Vendredi soir, le cours du pétrole ne bougeait pas.
Il s'est étendu hier et encore aujourd'hui.
Il baisse même un peu. Alors il peut baisser aussi parce qu'on anticipe que va y avoir une récession. Mais bon, c'est. Mais le. Enfin, en tout cas, moi, je ne crois pas qu'il fasse ce basé sur la rationalité et l'intérêt que personne n'a à la guerre. Sinon, il n'y aurait jamais eu de guerre, parce qu'on a, je crois pas, intérêt à la guerre.
Voilà. La situation au Proche-Orient ce soir.
Voilà, et puisque nous parlons d'irrationalité, on va parler d'un montant qui fait jaser. Ça y est, les actionnaires ont tranché clairement du côté de Stellantis. Autrement dit, il n'y a plus de débat. Ils ont dit oui massivement à la rémunération de Carlos Tavares, qui faisait polémique.
Rémunération, on rappelle, qui pourrait atteindre jusqu'à 36,5 millions d'euros sur l'année 2023. Bonsoir Mathieu Pechberti. Donc oui massif à 70,2%. Alors sur le papier, c'est très clair. Sauf que vous avez regardé un petit peu le détail des votes. Et là, il y a quand même des choses à redire très clairement, Mathieu, finalement.
Bah oui, il y a toujours débat, en fait, vous savez. Ça ne s'arrête jamais. Ouais. Quand on regarde, effectivement, quand on compte presque un nain, j'ai envie de dire, les votes qui se sont exprimés en Assemblée Générale, ce qui est important de regarder, c'est que Stellantis, c'est un groupe qui est donc bien né, on se souvient de la fusion de Peugeot et Fiat, donc contrôlé par deux familles, les Peugeot d'un côté, les Agnelli de l'autre, et que ces deux familles contrôlent encore aujourd'hui Stellantis, avec des droits de vote importants. Hein, à deux, elles ont 33% des votes. 33% des votes, c'est un chiffre important, parce qu'en Assemblée Générale, c'est ce qu'on appelle la minorité de blocage.
Oui.
Sauf que quand, en Assemblée Générale, c'est comme pour une élection présidentielle, législative, tous les actionnaires ne viennent pas à l'Assemblée Générale, surtout quand c'est Amsterdam, même s'ils peuvent voter à distance. Enfin, il y a plein d'investisseurs institutionnels qui ne votent pas. Et donc,
mais eux, ils y vont, eux.
Entre guillemets. Alors, les familles, elles, évidemment, votent fermement, mais beaucoup d'investisseurs, finalement, ne votent pas. Résultat, le poids des familles est encore plus prépondérant qu'il ne l'est en théorie. Résultat, en Assemblée Générale, les deux familles pèsent environ la moitié des votes exprimés. Voilà. Donc, elles s'imposent très largement. Et donc, moi, j'ai regardé un petit peu les chiffres, les premiers chiffres, parce qu'on n'a pas encore tous les détails. C'est pas quand même hyper clair, la communication financière des votes en Assemblée Générale encore. Enfin, on aura tous les détails demain. Quand on regarde l'expression des votes des investisseurs institutionnels, les grands fonds américains, les investisseurs institutionnels, en dehors des deux familles, finalement, ils ont plus voté contre la rémunération de Carlos Tavares que pour. Pas de beaucoup. Mais en gros, c'est 60-40. Voilà. 60 contre et 40 pour. Donc évidemment, ça ne suffit pas, puisque encore une fois, vous avez les Agnelli et les Peugeot qui ont massivement voté. Mais ça dit quand même que cette fameuse démocratie actionnariale qu'on nous jette à la figure à chaque fois qu'il y a des votes de ce genre, que les dirigeants des entreprises nous disent c'est les actionnaires qui décident, c'est les deux actionnaires qui décident.
Ça, c'est certain, mais ce qu'il faut dire aussi, Mathieu, c'est qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui sont très reconnaissants par rapport à Carlos Tavares, parce que quand
je n'émets pas de jugement, c'est juste pour dire que...
Non, mais c'est bien. Moi, j'en émets un quand les rênes de PSA. PSA est au bord du gouffre et il restructure l'entreprise et il la sauve.
Avec l'aide de l'État.
Non, avec l'aide de l'État, absolument.
Et des Chinois.
Je veux dire, t'es pas si facile que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fallu lui proposer un package très attrayant à l'époque, parce que pas grand monde voulait y aller.
Je dis juste que c'est pas les actionnaires qui décident, mais les deux.
Alors, il faut le prendre avec des pincettes, ce vote, finalement, Edwige, pour vous ou pas?
Je pense que le vote, il est large. Je sais pas, les 70%, comme dit Mathieu, c'est pas non plus un plébiscite.
Non.
Mais en même temps, il n'y a pas de rejet. Donc, ça
Il y a deux ans, ça avait été rejeté, on le rappelle. Hein.
Ouais, mais là, et puis pour continuer les précisions de Mathieu Pechberti, donc BPI, donc actionnaire, donc s'est abstenu. Donc on n'a pas voté contre, comme il l'avait fait notamment pour Carlos Ghosn, et donc s'est abstenu. Alors effectivement, qu'est-ce qui est sur la table ? Les performances de Carlos Tavares. Bon, il faut rappeler que lui, c'est un peu un chef d'entreprise internationale. Il est hors sol, dans le sens où il est portugais, la société, elle est donc en Hollande. La moitié du chiffre d'affaires est fait aux États-Unis. Oui. Donc,
Quand on dit c'est une société américaine, est-ce que vous dites, ah, mais il faut voir ça comme une société américaine, finalement ?
Une société internationale, je dirais. Enfin, c'est une multinationale.
Je sais pas, enfin,
Quoi ?
Oui, non, pardon.
Non, c'est multinational. Je pense que c'est multinational. Alors après, est-ce qu'il y a toujours le tampon français ? Ben non, parce que du côté italien, on voit bien qu'on considère qu'il y a un tampon italien sur le passeport de la nationalité d'entreprise. Donc, je pense qu'on peut dire que Carlos Tavares a quand même, sauvé Peugeot, PSA, et puis il a créé Stellantis, où il a réussi quand même une transformation. Il a quand même la marge la plus importante de tout le secteur.
12,8.
Donc c'est quand même colossal qu'une grande partie de sa rémunération est due au fait que s'il avait mis des critères qui étaient déjà très hauts, c'était 10% de marge. Et s'il les atteignait, à ce moment-là, il avait un bonus. Ça faisait encore drelin, j'ai envie de dire, dans sa cagnotte. Donc ce qui explique cette situation un peu hors sol quand même.
Voilà. Oui, non mais c'est ça. Non mais la question c'est est-ce que le montant qu'il perçoit correspond à ce qu'il a rapporté à l'entreprise ? Vous parliez
18 milliards.
Non mais moi en fait je pense que le débat il est même pas rationnel.
La valo elle a doublé
parce que si vous voulez,
39 milliards il y a 78 aujourd'hui.
Stellantis a dégagé 18 milliards de bénéfices. Enfin les résultats sont excellents.
Le débat des plus grands bénéfices le plus grand bénéfice du CAC 40 juste en dessous de Total.
Non. Ah oui, du CAC 40, pardon, parce qu'il y avait CMA-CGM aussi.
En valorisation, je répète, il y a 3 ans.
Non, ce que je veux dire c'est
39 milliards, c'est 78 aujourd'hui, on a doublé en 3 ans.
Le débat n'est pas rationnel. Tout le monde dit que Carlos Tavares, évidemment, a redressé un groupe qui était à deux doigts de la faillite, enfin qui aurait fait faillite si l'État n'avait été pas là, et tout le succès qu'on connaît et qu'on raconte suffisamment. Le débat n'est pas rationnel. Lui-même s'est exprimé hier, et d'ailleurs sur notre antenne, Carlos Tavares hier. Il compare son contrat de rémunération
à un
joueur de foot, Mbappé en l'occurrence.
Alors Mbappé en l'occurrence, il est payé deux fois plus.
Ou alors un pilote de Formule 1, parce que vous savez qu'il est passionné de Formule 1. Voilà, en fait, la question qui se pose pour Tavares, en tout cas moi, que je me pose, comme on se la posait beaucoup pour Carlos Ghosn, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu de démesure du bonhomme ?
Oui, juste. Oui. Non, parce que j'écoutais un syndicaliste qui disait, en fait, c'est 4 siècles... de rémunération
président
de la République. Non, mais c'est pour te dire que le débat, il n'est pas rationnel. C'est-à-dire que
pour répondre à la démesure, et donc à son égocentrisme que je comprends dans vos propos, Mathieu, il a signé un contrat. On lui a proposé un contrat qu'il a signé. Bruno, non mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que notre société n'y irait-elle pas mieux si on arrêtait de faire des procès sans cesse aux chefs d'entreprise et puis quand on sera plus chaud, quand on arrêtera d'être choqué de la rémunération face au gala, aux joueurs de foot et aux artistes.
Bruno, Carlos Tavares, il a réussi des choses exceptionnelles ces dernières années. Il y en a une qu'on cite peu, mais c'est le rachat d'Opel. Je pense que le rachat d'Opel était franchement.
Chose d'inattendue.
Il pas racheter son concurrent qui fait la même chose que vous.
Oui, qui perdait de l'argent depuis 20 ans.
Hyper visionnaire,
évidemment, qui n'était pas arrivé.
Pour l'avoir croisé chez Renault en réunion, ça fait partie des gens qui, quand ils rentrent dans la réunion, ils changent quelque chose. Donc du coup, respect déjà pour Carlos Tavares. Il fait des choses, il sait faire des choses que d'autres ne savent pas faire.
Et il prend des risques.
Il s'est démonté une voiture.
Et il prend des risques.
Il prend des risques, il réussit. Après, c'est une industrie cyclique. On voit bien que la valorisation, moi je me méfie un peu. On voit bien ce qui se passe avec Tesla en ce moment. On peut avoir un retournement du cycle produit qui a été favorable pour les marques Peugeot, Citroën jusqu'à présent. Donc il faut regarder un petit peu.
Non mais regardons la marge et le bénéfice.
Les marges opérationnelles. Moi, je me rappelle dans les kick-off meetings quand Carlos Ghosn disait on va atteindre 5% de marge opérationnelle, ce qui était Mercedes à l'époque, dans 5 ans. Tout le monde disait non, mais c'est stratosphérique. Aujourd'hui, on doit avoir 15 constructeurs qui sont au-delà de 5% de marge opérationnelle. Et dont Stellantis, mais aussi Renault qui a 8, Tesla qui est bien sûr là, mais...
Deux fois moins.
Donc, hein. Du coup, le monde de l'automobile a changé, il peut encore changer. C'est quelque chose qui est dynamique, et moi je pense qu'il a réussi dans un temps court des choses exceptionnelles. Bon, ses actionnaires le récompensent, bon ben voilà.
Ouais. Certains. J'insiste sur des choses qui sont factuelles. Vous avez trois sociétés de conseil aux investisseurs, ISS, Glass Lewis et
une autre. Oxinvest.
Merci. Qui ont conseillé aux investisseurs. Ces sociétés sont payées par des gérants de fonds, AXA, BNP, Amundi, enfin, tous les grands fonds dans lesquels vous mettez votre assurance vie, votre retraite, etc., pour voter à leur place, parce que eux, ils sont investis dans des boîtes partout dans le monde. Et ces sociétés-là, qui sont très écoutées, ne disent pas qu'il a
alors,
mal fait.
Alors, elles ont été écoutées par les actionnaires.
Mais alors,
laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, ne disent pas, c'est pas bien. Elles disent, c'est excessif, ce qui est très différent. Et les actionnaires, les vrais actionnaires minoritaires, en dehors, encore une fois, des familles fondatrices, ont plutôt suivi ces conseils, ont plutôt voté contre cette rémunération, non pas contre Carlos Tavares, non pas contre une rémunération élevée, mais contre une rémunération excessive. Et c'est bien
ça. Et en même temps, on est un Français qui ne s'est pas prononcé.
Edwige.
Il y a un point aussi, peut-être, qui est intéressant à soulever, c'est que la résolution, en fait, il y avait deux points dans la résolution. Il y avait la rémunération de Carlos Tavares, et puis je crois qu'il y avait la rémunération du président.
John Elkann.
Exécutif, Elkann. John Elkann, qui était aussi colossal.
Alors qu'il était à 4,4 millions.
Elkann vote pour Carlos Tavares, donc c'est en vrai l'ascenseur.
Si on veut. Ce que je veux dire, c'est que je connais des investisseurs qui ont voté, non pas contre la rémunération de Carlos Tavares, mais contre le fait qu'il y ait John Elkann soit président dit exécutif, qui n'existe pas chez nous.
C'est vrai.
Et que là, et donc ça coûte très cher, et on est dans le dédoublement des fonctions.
Je vous invite à lire le papier de Justine Vasson qui il y a 48 heures sur le site, qui a très bien relevé ce fait, qui dit John Elkann, lors de la constitution du groupe, on lui a imposé, c'est la famille Agnelli qui a imposé un titre de président exécutif qui lui permet de toucher 4,8 millions d'euros par an.
C'est ça que
Jean-Dominique Sénard chez Renault, président non exécutif, c'est 10 fois moins, c'est 450 000 euros par an.
Je pense qu'effectivement, on ne peut pas comparer, parce que Renault est devenu très petit, Lilliputien, je ne sais pas, à côté de Stellantis. Ouais. Mais la situation de Stellantis est possible aujourd'hui pour la seule et unique raison que Stellantis est une entreprise qui est basée à Amsterdam.
Oui, mais voilà, c'est ça. Et il n'est pas soumis au droit français.
Et que, très honnêtement, la démocratie actionnariale chez Stellantis, c'est une blague. Vous avez deux familles qui contrôlent le groupe avec des droits de vote doubles. Et tant mieux. Enfin, je ne fais pas une critique. C'est juste pour apporter de la nuance. Et moi, sur ma petite question de n'est-ce pas un peu excessif, comme le disent les sociétés de conseil, et y a-t-il pas un peu de démesure ? À l'Assemblée Générale, qui était très ennuyeuse d'ailleurs aujourd'hui, Carlos Tavares a quand même dit, en Europe, dans les voitures électriques, nous sommes numéro 3, et en gros, on a Tesla en ligne de mire, et vous allez voir, on a des super produits. Voilà, il est quand même là-dedans. De toute façon, c'est car guy, comme on dit. Ghosn était aussi là-dedans. Marquion était un peu
Carlos
là-dedans
Tavares
aussi.
Est encore plus,
Et oui, Carlos Tavares, oui. Sa prochaine cible, c'est se faire Elon Musk. Et voilà, bon, ils sont motivés par ça, tant mieux. Enfin, c'est des businessmen.
Non, mais je suis en train de faire un moteur, en tout cas, Carlos.
Non, mais c'est pas une critique. Je dis juste qu'il faut comprendre la mentalité de ces grands hommes-là.
Bruno, je pense que si on se sépare de Carlos Tavares, ils vont vendre leur titre.
La question n'est pas posée de est-ce qu'on se sépare de Carlos Tavares. La question que posent les sociétés de conseil aux investisseurs, c'est que c'est excessif.
Non mais ok.
Je répète.
Voyons ce qui s'est passé avec Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, on peut faire des tas de reproches à juste titre sur sa gestion à la fin. Au bout du compte, on voit bien que Carlos Ghosn, étant mis en difficulté d'abord par l'État français qui a voulu augmenter sa part. Ouais. Déjà.
Quand Emmanuel Macron, il faut la.
Sa part. Et la deuxième chose, quand il est, je sais pas quoi, comment dire, mais quand il est mis en prison, du coup là, c'est la catastrophe intégrale. Et je pense que
la catastrophe.
Hein. Si on enlevait Carlos Tavares, malgré tout, on change le panorama.
On connaissait. Reconnaissez-lui quand même d'avoir su mener effectivement la fusion entre PSA, Opel, Fiat, Chrysler,
avec un ego
démesuré. Il fallait un patron de cette envergure pour pouvoir faire ça.
Oui, bien sûr. Non. Fiat allait mal, les États-Unis allaient mal. C'est vrai qu'il a réussi à transformer.
Leur motivation, et encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est une explication. La motivation de Carlos Tavares, c'est d'être mieux payé que ses qu'on génère américain.
Je et maintenant, pas. Reconnaissance.
Bah si, il le dit d'ailleurs hier soir. Il l'a dit. Ouais. Il l'a dit à notre, enfin, ce matin. Plutôt, on l'a diffusé ce matin à notre micro. Regardez, si j'avais les résultats de mes concurrents, j'aurais un salaire moins plus bas.
Voilà pour la rémunération de Carlos Tavares. Donc c'était adopté ce soir, 70,2% des actionnaires. On va avoir deux minutes pour dire un mot des chiffres du FMI qui sont tombés tout à l'heure. Alors qu'il nous dit quoi, que la croissance mondiale va être un petit peu meilleure que cette année, 3,2%. Le FMI est plus optimiste pour les États-Unis qui devraient faire 2,7% cette année. Par contre, il y en a qui sont moins bien lotis.
Hein. Oui, c'est ça. En zone euro, ils ne voient que 0,8%. Et en France, notamment, sa prévision passe de 1% à 0,7%. Désormais, au moment où on a un budget 2024 qui pose beaucoup de questions, est-ce que vous pensez que ça complexifie d'autant plus la décision potentielle des agences de notation, Bruno Coquet?
Ben, je pense que là, pour ce qui concerne la France, la prévision du FMI, elle est un petit peu au-dessus du consensus, 0,1 point. Ils sont à 0,7. Ouais. Le consensus est à 0,6. Donc, de toute façon, très en dessous que ce que prévoit le gouvernement, qui est encore
qui reste
à
toujours
1,
trop
malgré
optimiste.
Tout.
Ouais.
Et donc, du coup, ça change rien. La prévision du FMI n'infléchit pas l'opinion des agences de notation qui, on peut le penser, est déjà faite.
Donc ça renforce quand même le fait que a priori la prévision du gouvernement est trop optimiste, Edwige.
Oui, il faut voir parce qu'en mettant dans le FMI, dit que la croissance mondiale, globalement, ils sont plutôt positifs sur 2024. Alors peut-être qu'il y aura un petit effet,
il y aura peut-être quelque chose,
oui, mais quand même plutôt optimiste. Enfin, en même temps, il y a des questions géopolitiques. Non, ce que je trouve intéressant que me soulevait du reste Ardaban Amirastani, c'était les prévisions sur la Russie, donc avec une croissance de 3,2%. Donc ça montre que pour le coup, les sanctions
ne font
pas du tout, ça ne fonctionne pas et ce n'est pas du tout la catastrophe annoncée.
Ouais. Donc, États-Unis 2,7% pour cette année, zone euro 0,8%. Oui, Chine 4,6%. Ouais. Hein, la Chine qui ralentit inexorablement. Là,
les États-Unis qui font que la prévision se relève. Ils relèvent les États-Unis et c'est ça qui pèse. La Russie, ça pèse peu dans le monde. Et donc, du coup.
Oui, les États-Unis restent là.
C'est ça qui relève leur prévision. Et donc, du coup, c'est un la surprise qu'ils ont à prendre en compte, un peu comme tout le monde dans les prévisions en ce moment, c'est le fait que les taux d'intérêt élevé n'est pas plus pesé sur l'activité jusqu'à présent. Ouais. Et ça, c'est quand même une interrogation assez forte, et puis quelque chose qui pèse sur le futur. Là, ils ont choisi de dire « ça pèsera pas ». Bon.
Et puis, chapeau aussi à nos voisins espagnols qui, eux, affichent une croissance rigoureuse et qui sera d'autant plus forte l'année prochaine.
Ça bosse.
Ils sont sortis de la crise de l'immobilier qui les avait terrassés.
Ouais.
Maintenant, c'est nous qui sommes
un peu à la traîne. Ouais.
Donc on passe de 1% à 0,7% désormais. C'est quoi le consensus à l'heure actuelle sur la croissance française? 0,6%.
0,6. Oui.
Et la prévision du gouvernement, c'est 1% toujours.
1%. Hein. Ah. Oui. Enfin, elle devrait être révisée là quand même dans les semaines qui viennent.
Non, mais on a déjà révisé de 1,4 à 1 il y a 3 semaines. De toute façon, la réalité va réviser ce chiffre. Il est. Il peut arriver un miracle, mais il est impossible, dans l'état actuel des choses, de.
Il y a les Jeux Olympiques, voyons.
Certes, il y a les Jeux Olympiques.
Alors, qui coûtent très cher.
Il y a quand même un consensus pour dire que ça ne crée pas beaucoup.
Ça coûte pas cher à l'État, d'après ce que j'ai compris.
Oui. Ça coûte pas cher, on verra la note. Mais le point, c'est que les Jeux Olympiques ne changeront pas ce panorama. De toute façon, la réalité va réviser ce scénario et va durcir le scénario budgétaire, j'imagine.
Oui, d'où l'importance de faire les fonds tiroirs. On en parlera tout à l'heure.
Ah, ça, on va en parler évidemment. Bien, c'est terminé pour cette première partie des experts. Bruno, vous revenez dans un petit quart d'heure avec nos experts, bien sûr. On parlera aussi des contrats pro, ce nouveau coup de ciseau hier, on en parlera un petit peu avec vous, puis on parlera toute cette actu. Mathieu Pechberti, merci Mathieu. À très vite pour nouvelles aventures. Edwige, on se retrouve demain, bien sûr, 18h10.
Oui, c'est Nicolas Pavrès, parce que lui, il connaît très bien toutes les questions de dette, et puis aussi, évidemment, les questions de guerre, puisqu'il avait écrit un rapport, un livre blanc pour Emmanuel Macron.
Oui.
Mais donc, on aura, à mon avis, les deux sujets.
Et bien voilà, ça sera demain 18h10, 18h56. Nous, on revient dans un instant. On a encore beaucoup de choses à voir.
Et oui, en direct, ensemble, jusqu'à 20h pour décrypter l'actualité économique pour vous. À tout de suite.